Et il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore le générique de Vendredi Théâtre. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Et oui, je le disais, nous allons faire une émission spéciale consacrée aux 10 ans de la maison Louis Jouvet, l'ENSAD de Montpellier, l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique, si je ne me trompe pas, de Montpellier. Je suis avec Grazia. Grazia, bonjour.
Bonjour.
Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Richard Mitou. Bonjour Richard. Directeur donc de la maison Louis Jouvet, et Gérard Liébert, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes professeur émérite à Paul Valéry et vous êtes enseignant aussi à l'ENSAD.
Oui.
Alors, 10 ans donc de la maison Louis Jouvet, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cet historique? Donc la maison Louis Jouvet, ce bâtiment s'est ouvert à Montpellier en 2003 et les premiers cours ont commencé en automne, si je ne me trompe pas.
Oui, exactement. Ariel Garcia-Valdez, qui est devenu directeur de ce qui s'appelait à l'époque la classe professionnelle du Conservatoire National de Région. Les termes changent souvent. Maintenant, c'est le Conservatoire à rayonnement régional. Donc, il y avait une section professionnelle qui avait été créée par Michel Touraille, dont j'ai été élève, moi, entre 94 et 97, dont des gens comme Jean Varela, David Ayala, qui sont des hommes de théâtre aujourd'hui reconnus nationalement.
Et qu'on reçoit régulièrement sur notre antenne.
Que vous recevez aussi. Et donc, Ariel Garcia-Valdez est devenu directeur de cette classe professionnelle. Il y en avait très peu en France, en 98, et sa première volonté a été de créer une vraie maison du théâtre, parce qu'on était dans une aile du bâtiment mélangée avec les jeunes danseuses, les musiciens, avec des cloisons fines où on essayait péniblement de dire du Shakespeare et d'avoir le trombone à coulisses qui travaille à quelques mètres de nous. Donc c'était un peu difficile, même s'il y avait une très bonne ambiance. Les horaires étaient un peu difficiles aussi à aménager, parce qu'au théâtre, parfois, on travaille tard, longtemps, différemment. On était aussi que des adultes et les jeunes danseuses, musiciens. Donc la cohabitation était toujours un peu difficile. Et le théâtre, c'est toujours un peu le parent pauvre du conservatoire. C'est l'art un peu païen, c'est un peu étrange de savoir comment ces gens travaillent. C'est des animaux étranges, comme disait Molière.
Object, comme tu as dit.
Et donc Ariel Garcia-Valdez a eu cette volonté de construire cette maison sur l'ancienne œuvre du prêt gratuit que l'évêché avait... c'était une œuvre offerte aux gens qui avaient besoin d'être hébergé. Donc ce bâtiment était devenu un squat artistique qui après a dérapé, il y a eu le feu et puis il s'est dit allez, c'est juste en face de l'autre côté et il a réussi à construire cette maison du théâtre qui est devenue, donc qu'il a nommé la maison Louis Jouvet et qui enferme l'École Nationale Supérieure d'Art Dramatique, même si le mot enfermé n'est pas, qui est ouverte à l'ENSAD et aussi à la classe d'initiation du conservatoire, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens des cours du soir avec des gens de la société civile qui sont à la faculté ou qui travaillent, qui font des cours du soir dans la même tranche d'âge. Hein, c'est des adultes de 18 à 26 ans. Et donc, voilà, cette maison a 10 ans aujourd'hui. Je tenais à rendre hommage à mon prédécesseur et au travail qu'il avait fait et dire qu'elle avait aussi aujourd'hui un rayonnement vraiment national. Elle fait partie d'une des 10 écoles supérieures de France.
Alors, pour cet anniversaire, pour ces 10 ans, va donc y avoir un festival de l'acteur du 9 décembre au 20 décembre. J'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans le programme.
Beaucoup trop. Je me rends compte qu'encore une fois, j'ai vu trop grand. Mais... voilà, c'est une petite maison, on est une petite équipe, on a cette volonté d'avoir une vraie intimité de travail avec les élèves comédiens, avec les artistes qui interviennent. On a peu de salles, hein. D'ailleurs, j'espère que cette maison sera amenée un peu à avoir d'autres... un peu plus de locaux, enfin on verra, parce qu'on a des difficultés de stockage, enfin après des choses très techniques. Mais quand même, je voulais vraiment marquer le coup, parce que c'est ma première année de direction, j'ai essayé de poursuivre le travail d'Ariel Garcia-Valdez, d'inventer de nouvelles choses aussi pour donner un peu de rayonnement un peu plus à cette école. Ariel faisait un travail exceptionnel, c'était pas un as de la communication, donc j'ai développé un site, j'ai développé des partenariats avec le Centre des Monuments Nationaux, avec la première formation Théâtre et Médecine aussi, où les comédiens aident des étudiants en médecine, avec le Centre des Monuments Nationaux, avec Montpellier Danse. J'essayais d'ouvrir cette maison, de la faire connaître un peu plus, parce qu'elle a une reconnaissance nationale, et elle est pas très connue localement, ce qui est un peu étrange, donc je voulais lui donner qu'on essaie de penser qu'ici il y a quelque chose d'un peu rare quand même, c'est-à-dire voilà une des 10 écoles supérieures. Et donc ce festival très ambitieux. Hein, on verra si on tient le coup. On verra si le public est au rendez-vous, j'espère, qui réunit les spectacles des élèves comédiens, des vraies créations, des cartes blanches, un spectacle invité de Pierre Debauche, un grand monsieur de l'art dramatique, et des invités, des grands acteurs qui viendront parler aux acteurs en formation de ce que c'est que le métier, qu'est-ce que c'est que la place de l'acteur dans la cité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la formation de l'acteur. Tout ça est très ouvert, c'est une tentative, et il y aura un petit bar de nuit, enfin de journée. On commencera à 17h, donc ce sera la nuit, puisqu'on est en plein hiver. On essaiera de mettre des chauffages, hein, on essaiera que les gens soient un peu bien, il y aura une petite soupe, et on essaiera de partager des moments comme ça, artistique, avec cette maison et son rayon. Voilà. J'espère que le rayonnement sera chaleureux de la maison, comme ça on sera un peu réconforté. Voilà.
Moi je me posais une question, donc à la maison Louis Jouvet, est-ce qu'il y a des étudiants ou est-ce qu'il y a des élèves?
Ah,
c'est un vaste problème.
Alors c'est des élèves, parce que c'est une école nationale supérieure, à l'université c'est des étudiants, quelle est la différence, je ne sais pas. Moi, je disais, les étudiants étudient et les élèves apprennent. Mais c'est peut-être très, très malvenu de dire ça. C'est pas vrai. Non, c'est des étudiants parce que c'est des artisans. Ariel les appelait les apprentis comédiens. C'est-à-dire qu'on est, justement, il faut vraiment voir que cette maison, elle a une spécificité. C'est-à-dire que sur les 1400 heures de travail annuel, les élèves comédiens travaillent 1100 heures, 1200 heures au plateau. C'est-à-dire que c'est vraiment... ils sont sensibilisés à tous les aspects techniques. Là, ils travaillent une création avec un scénographe qui vient les aider. Mais ils essaient d'avoir une vision de tous les métiers du théâtre, mais c'est avant tout des, ils sont pas là pour être consommateurs d'une, ils sont pas là pour écouter, ils sont là pour proposer, pour inventer, pour retrouver un peu le geste créatif, la place de l'acteur dans le geste créatif. Donc c'est une école, on pourrait même dire que c'est Ariel les appelait des apprentis comédiens. Mmh. Bon, il trouvait que ce terme était... Alors apprenti, c'est dommage parce que ça a peut-être une connotation péjorative, je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être ressenti comme ça, mais non, ils sont en apprentissage. Voilà.
Tous les grands peintres de la Renaissance avaient des apprentis. Pour revenir sur tous les métiers donc, du théâtre qu'ils doivent plus ou moins côtoyer, me semble-t-il avoir entendu lundi soir qu'il y en a 250.
250 métiers, ou 217, je ne sais plus.
Oh, ça c'est effectivement, oui, c'était la liste qu'a donnée... alors je ne sais plus de qui était cette liste, si c'était de... c'était à tout ce que vous avez voulu toujours
savoir sur le théâtre sans jamais avoir osé le demander. Voilà. J'ai répété.
Voilà, très bien, parfait. Ça c'était donc c'est à l'initiative de
Luc Bremer.
Voilà. Et donc il y a eu une petite réflexion comme ça lundi. On y participe aussi quatre. Quatre comédiens de la nouvelle promotion ont participé à une réflexion comme ça sur qu'est-ce que c'est qu'un théâtre.
Alors, je tiens à signaler que cette réflexion va être retransmise sur Divergence dimanche à 20h30. Hein. Donc, je suis en train de travailler sur le montage avec mon ami Bruno, donc on est en plein dedans.
Ah,
voilà,
bah,
donc
bravo,
20h30
bravo
dimanche si vous voulez savoir ce qui s'est passé au théâtre Jean Villard.
Ouais, c'était très très bien. Oui, effectivement, je ne sais plus, je me demande si ce n'est pas un texte de Gérard, peut-être tu sais toi, si c'est un texte de Jouvet qui dit tous les métiers du théâtre. Je ne sais pas si c'est Copeau ou Jouvet qui cite.
Toute cette génération-là, en tout cas, c'est la première génération qui vraiment, pour nous, a insisté sur la participation de très nombreux artisans, de très nombreux artistes dans une production théâtrale. C'est cette époque-là que date l'apparition du nom des techniciens sur les programmes, dans les programmes de théâtre qu'on distribuait au public. Et presque tout, Jouvet s'est toujours revendiqué comme étant d'abord un artisan du plateau. Quelqu'un qui sait construire un décor, qui sait organiser les éclairages, qui surveille les robes. Et toute la génération de metteurs en scène proches de lui, Copeau, Batty, Pitoëf, Dulin, sont des gens qui sont très très proches des métiers du théâtre au sens fort du terme. Et comme c'est des compagnies qui ont beaucoup travaillé avec relativement peu de moyens, la plupart du temps, ils ont aussi l'habitude de tout faire ensemble et donc de faire de nécessité vertu et d'apprendre grâce à ça à aller plus loin. Mais ils savent, Jouvet était parfaitement conscient d'un défaut d'un costume et il était capable d'exiger qu'on le répare pendant l'entracte si quelque chose lui paraissait ne pas aller. Et il savait pourquoi et ce qu'il fallait faire.
Ben justement, Jouvet va nous accompagner pendant toute l'émission, donc j'ai un petit peu gratté dans nos archives. Et on va entendre la voix de Jouvet dans un hommage à Antonin Artaud.
Antonin Artaud a dit depuis longtemps avec une prescience et une prévision d'une acuité exceptionnelle ce qu'est l'essence du théâtre. Ce que sera vraisemblablement l'art dramatique de demain, le théâtre. Ce que seront, dans quelque temps, ces manifestations diverses, la radio et le cinéma. Dans un ouvrage qui s'intitule « Le théâtre et son double », en véritable initié, Antonin Artaud a écrit et formulé l'essentiel de ce que chacun de nous cherche diversement aujourd'hui. Il a annoncé les genres qui se préforment actuellement sous nos yeux. Sur le langage, sur le jeu, sur l'acteur, sur la mise en scène, sur l'expression, sur la psychologie au théâtre, Antonin Artaud a écrit des pages pénétrantes. Et dans la mesure où une définition peut saisir et circonscrire les phénomènes dramatiques, des pages définitives.
Voilà, c'était donc un premier extrait, un hommage de Antonin Artaud par Louis Jouvet. Bah justement, on va parler...
C'était au moment où Antonin Artaud avait quitté l'hôpital psychiatrique, avait été rapatrié à Paris par ses amis, Marthe Robert principalement et Arthur Adamoff. Et c'était un hommage qui lui était rendu dans le théâtre Sarah Bernhardt. L'anecdote dit qu'Antonin Artaud est arrivé, mais personne, on pensait qu'il arriverait le lendemain, que l'hommage à lui se faisait la veille. Et il était autour du théâtre, il essayait de rentrer, mais il ne pouvait pas.
On va parler un petit peu maintenant de Louis Jouvet avec vous, Gérard. On connaît Louis Jouvet par ses films, mais je crois que Jouvet n'aimait pas beaucoup le cinéma. Il préférait
être mélange des deux. C'est un peu une posture qu'il avait, une posture critique et ironique, avec deux aspects. D'un côté, le cinéma, on pourrait le dire de façon concrète, l'a rendu très célèbre et lui a permis d'affirmer son travail d'homme de théâtre, même si les sommes d'argent n'étaient pas astronomiques, mais le fait d'avoir du succès, d'autre part, a attiré dans son théâtre un public qui venait voir aussi ce Louis Jouvet, qui était un acteur apprécié. Mais, alors, il se moquait un peu du cinéma, mais avec quand même un intérêt très vif. Il a aussi supervisé une des captations, en tout cas de la pièce Knock de Jérôme.
Oui, dans les années 30.
Il était impliqué. Il n'a pas mis en scène directement, mais il était très attentif au cinéma. Mais en même temps, il disait que ça le reposait. Il demandait au metteur en scène de le diriger et il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Et il profitait de cette occasion-là pour cela. Mais c'est d'abord un immense homme de théâtre, une des grandes, grandes figures. Alors, c'est peut-être une des figures qui reste. Il faut vraiment la lier aux autres, à Jacques Copeau, qui a été le maître absolu pour Jouvet et pour Dulin, et puis à Georges Pitoëf, qui venait de Russie et qui apportait une connaissance du théâtre étranger extraordinaire, et à Gaston Batty, qui a été un grand metteur en scène, qui fabriquait des images théâtrales merveilleuses. Donc c'est vraiment la génération des gens de théâtre qui ont imposé la notion de mise en scène en France, et Louis Jouvet reste pour nous un des plus célèbres, principalement à cause de ses films, aussi beaucoup à cause de beaucoup de très nombreux textes qu'il n'a cessé de griffonner toute sa vie et qui accompagnent sa réflexion. Alors là, d'homme, d'artiste de théâtre, profondément artiste de théâtre. Je crois que c'est ça qui vaut et c'est pour ça que c'était aussi une bonne figure tutélaire pour un lieu de théâtre effervescent comme à Montpellier, où vous pouvez arriver pratiquement jour et demi, il y a quelqu'un qui travaille, qui est en train de répéter, qui est en train de bricoler, qui est en train de faire quelque chose, où le public qui passe peut venir voir le résultat de certains ateliers très régulièrement. C'est une chance incroyable, et pour les apprentis, mais aussi pour le public montpelliérain, d'avoir cette maison en plein cœur de la ville.
Absolument. Alors il faut savoir qu'a priori, rien ne prédestinait Jouvet au métier de comédien, de metteur en scène, puisqu'il était fils de pharmacien.
Oui, il a passé son diplôme de pharmacien et il a fait du théâtre amateur dans un premier temps. Il a été recalé 3 fois au conservatoire d'art dramatique, donc il ne faut jamais se décourager.
Il bégayait, je crois.
Voilà. Et puis il a essayé, alors il a joué dans des troupes de Bric et de Broc, et ça n'est que un peu par hasard qu'il a été engagé pour jouer dans une adaptation des Frères Karamazov de Dostoïevski et dans laquelle Jacques Copeau était impliqué. Jacques Copeau l'a repéré et lui a demandé de faire partie de l'aventure essentielle, et on fête l'anniversaire cette année, l'ouverture du Théâtre du Colombier en 1913. Et ça a été le point tournant de son existence pour Jouvet, pour Dulin, pour toute l'équipe qui était là, pour Copeau lui-même, qui ne savait même pas qu'il avait ce talent de metteur en scène aussi affûté qu'il avait, puisque c'était quelqu'un qui était du côté de la littérature. Et c'est un des faits majeurs de l'histoire du théâtre, ce fait en 13. Et dans l'équipe, on voit, il y a Jouvet, Dulin, qui sont... Et au début, Jouvet est d'abord engagé par Copeau parce que c'est un bon bricoleur, parce qu'il sait tout faire sur un plateau, parce qu'il a le sens de cela. Et ça n'est que progressivement que son talent d'acteur va s'affirmer, et notamment son talent comique. Mais dans La Nuit des Rois, qui est le dernier spectacle de la première saison du Vieux Colombier, mais jusqu'alors, Jouvet n'est pas tout à fait sûr de devenir... Il n'est certainement pas sûr de devenir l'acteur qu'il est devenu par la suite, d'autant que ses débuts ont été très rudes, difficiles et un peu déroutants même.
Bah c'est toute l'aventure du Vieux Colombier créé par Jacques Copeau, donc ce théâtre du Vieux Colombier. Mais si je ne me trompe pas, Copeau avait créé le Vieux Colombier avec le soutien de Gide et de la NRF.
Oui, c'est le théâtre un peu de la NRF. Ils se mettent sur rive gauche, alors que la plupart des théâtres sont de l'autre côté. Et puis, ils sont liés à la littérature, mais Copeau et toute son équipe vont convaincre d'ailleurs un certain nombre d'auteurs, parce qu'ils vont monter des classiques. Copeau, l'auteur fétiche, c'est Molière pour toute cette équipe-là. Dulin, très vite, va commencer à s'intéresser à l'avare, qui est un rôle qu'il a accompagné toute sa vie. Et Coppo, dès le début, commence même à esquisser un projet de dispositif scénique pour l'école des femmes que plus tard, Christian Bérard va réaliser. Donc, il y a vraiment
grand
ça.
Christian Bérard.
Mais il cherche des auteurs, il sollicite des auteurs, ils vont convaincre tel auteur. Et Jules Romain va se mettre à écrire pour le théâtre dans ce contexte-là. Et c'est quand même, quand on lit Knock, c'est une des grandes comédies
c'est
de la langue française du XXe siècle, et elle est venue de là, et bien d'autres auteurs s'y sont collés, ont essayé. Toute sa génération, ils ont surtout monté des auteurs de leur temps, et quelques classiques. Alors souvent, on retient maintenant les grands classiques qu'ils ont montés, mais les auteurs contemporains sont là, et Jouvet a rencontré comme ça Giraudoux.
Oui, grande rencontre avec Giraudoux. Et c'est vrai que pendant toute sa carrière, Jouvet va aller voir des écrivains pour les convaincre d'écrire pour le théâtre. Ouais. Je crois qu'il l'a fait avec Julien Green. Julien Green, qui était plutôt un auteur de romans. Et c'est Jouvet qui va lui demander d'écrire une pièce qui va être Sud.
Toujours attentif. Et tout à la fin de sa vie, Jouvet meurt en 52, il va aussi être le premier à monter les bonnes de Jean Genet. Donc il avait repéré un des textes majeurs de la génération suivante, même s'il n'était pas forcément fanatique de ce texte-là, mais il avait un sens incroyable du théâtre. Et d'autre part, il a un peu obligé Genet à revoir sa pièce. Donc tout au long...
Je crois qu'ils ne se sont pas très bien entendus, Genet.
Non, ben, c'est pas le même univers du tout.
Pas du tout.
Mais il a quand même choisi de monter cette pièce. Il avait bien... perçu qu'il y avait là quelque chose de très intéressant.
Je crois que Cocteau avait beaucoup insisté aussi.
Bien entendu, oui.
Et c'est Christian Bérard, je pense, qui avait fait les décors pour les bonnes de Genet,
Christian Bérard a été amené du côté de Jouvet par Cocteau, parce qu'il était très ami avec Cocteau, il avait travaillé avec lui pour La Voix humaine, et il a fait les décors de La Machine infernale, qui est mise en scène par Jouvet, au moment où il va quitter la Comédie des Champs-Élysées et prendre le théâtre de l'Athénée, qui est aujourd'hui le théâtre Louis Jouvet. Et c'est lui qui a présenté Bérard à Jouvet. Et Jouvet était un peu effrayé au début, et ça n'est que petit à petit qu'il s'est aperçu que Bérard était un génie de la scène.
Alors, il y a eu donc l'aventure du Vieux Colombier avec Coppo. En 22, il y a la rupture avec Coppo, et après, il prend la direction de la Comédie des Champs-Élysées. Oui. Je pense que c'est dans les années 20-24, je crois, qu'il prend cette... Et après, le théâtre de l'Athénée jusqu'à sa mort.
Il y a quand même une parenthèse aux États-Unis, non, il part
pas aux États-Unis. C'était pendant la guerre. Il va faire quelques tournées. Au moment de la guerre, Jouvet est parti avec sa compagnie présenter quelques spectacles en Suisse, alors avec des autorisations là, du gouvernement en place. Puis ensuite, ils sont partis en tournée en Amérique du Sud. Et cette tournée a duré tout le restant de la guerre. C'est-à-dire qu'ils ne sont rentrés en France qu'après la fin de la guerre.
Ça devait durer que quelques mois,
je crois. Oui, ça a duré trois... Enfin, ils sont partis de 41 à 44, oui.
Et la fin du voyage, si je ne me trompe pas, était assez dure, puisqu'il n'y avait plus d'argent du tout.
C'est très rocambolesque ce qui s'est passé. Ça pourrait être l'objet d'ailleurs d'un film magnifique. Je crois que Téchiné avait pensé faire un film là-dessus, sur la tournée en Amérique du Sud de toute l'équipe, avec toutes les aventures qui leur arrivent, des incendies, des histoires d'amour, des jeunes premières qui s'en vont forcément avec de beaux latino-américains. Enfin, tous les ingrédients d'un roman feuilleton, mais où ils ont joué obstinément. Et Jouvet était un maniaque du jeu. Hein. Tous les gens qui ont été proches de lui disaient, mais il ne s'arrêtait jamais, même Julien Berthaud, je lui avais posé la question, il m'a dit mais à l'entraque, il me faisait venir dans sa loge et puis il fallait qu'on parle de ce que j'avais fait dans le rôle d'Horace de l'école des femmes, et il me disait mais ça et ça et ça et ça, puis après il me donnait un livre, il fallait que le lendemain j'ai lu le livre et que je lui en parle. C'était un travailleur obstiné et passionné, et donc autour de lui, les gens ne pouvaient aussi que monter et que apprendre plus et avoir envie d'aller encore plus loin. Mais c'est pas quelqu'un qui se reposait sur ses lauriers, jamais.
Et puis c'était quelqu'un qui était fidèle en amitié, puisque dans ses films, dans les films dans lesquels il jouait, il insistait beaucoup pour que ses amis jouent aussi. C'est comme ça qu'il y a eu Dulin dans Volpone, si je ne me trompe pas. Si je dis des bêtises, vous me le dites.
Non.
Et il faisait jouer aussi ses étudiants dans les films où il participait.
Bien sûr.
Et il a eu comme étudiant Jean Carmet, si je ne me trompe pas, Bernard Blier.
Oui.
Hein, et on le voit régulièrement.
Jean Marais aussi. Alain Cuny a été
invité. Alain Cuny, voilà.
Donc, beaucoup de gens sont passés dans les classes de Jouvet. Et puis, ça a été un professeur au conservatoire. Avec bonheur, on a gardé la transcription de ses leçons. Et les leçons de Jouvet faisant travailler ses étudiants sur les textes classiques sont des merveilles. Et il y a quelques années, un spectacle avait été fait à partir de sa leçon sur le rôle d'Elvire dans Le Don Juan de Molière. C'est époustouflant.
Dans le même conservatoire où il avait été régalé.
Voilà, il n'est pas rentré au conservatoire, il a été nommé au professeur. Oui, il en parlait avec humour en disant que finalement, vous voyez, il devenait professeur alors qu'il n'avait pas bien appris ce qu'il fallait faire au conservatoire. C'est-à-dire qu'il aura appris ce qu'il fallait faire maintenant pour notre temps et pas pour l'époque précédente.
Alors le spectacle, moi je l'avais vu à l'époque, c'était dans les années 80, ça s'appelait Elvire Jouvet 40, je ne me souviens plus du nom de la metteuse en scène.
Brigitte Jacques.
Voilà, qu'on avait reçu ici il y a quelques années pour un autre spectacle.
Ah oui, bah une grande, grande personne du théâtre aussi, qui monte des corneilles en ce moment.
Ouais. Eh bien, on va retrouver Louis Jouvet avant de recevoir quelques apprentis comédiens pour nous parler de ce qui va se passer dans ce festival de l'acteur. Et il s'agit d'un extrait donc, de la vie, Entrée des artistes, un film de Marc Allégret. Marc Allégret, André Gide, on retrouve toute cette petite famille. Donc c'est un extrait en 1938 où Jouvet joue le rôle d'un professeur du conservatoire. Ça a pratiquement des côtés de reportage. Écoutez ça.
Adieu Gilbert.
Non,
adieu Gilbert. Adieu Gilbert.
Adieu Gilbert.
Adieu Gilbert.
Mais d'accord, on recommence.
Adieu Gilbert.
Eh hey, mais tu l'as fermée, mais tu ne l'as pas ouverte. On recommence.
Adieu Gilbert.
Non, maintenant, adieu Gilbert.
Adieu Gilbert.
Attends, Gilbert.
Joue, c'est vous.
Non, non, commence, monsieur, commence. Recommence.
Vous, c'est vous.
Mais non, il n'est pas surpris, mon petit, il est amoureux. Vous, c'est vous. Passionné. C'est la dernière réplique de l'acte. Le rideau tombe sur ce « c'est vous ». Recommence.
C'est vous.
Mais non, en entrant, tu l'aurais tout de suite, mon petit, tu n'attends pas une heure pour dire vous, c'est vous. Et on recommence, mon petit, passionné.
Vous, c'est vous.
Oui, enfin ça, rideau. Mireille, ce n'est pas mal, mon petit, mais tu es un peu trop coquette. Tu es très jolie jambe, je t'en félicite, mais ton rôle n'est pas un rôle à jambes, c'est un rôle de sentiments. Il faut qu'on oublie les jambes. Alors ne les montre pas, laisse-les en coulisses. Compris?
Oui, maître.
Quant à toi, Pescani, tu joues mollement. Vous pouvez écouter, vous autres. Tu t'installes confortablement dans un métier où il n'y a pas de confort, le métier d'acteur.
Et voilà, c'était donc un extrait donc, de L'Entrée des artistes, un film de Marc Allégret en 1938, avec Louis Jouvet. Et donc l'un des acteurs qui était en train d'apprendre son métier, c'était Bernard Blier, qui était dans la réalité d'ailleurs, effectivement, un élève de Jouvet. Alors maintenant, il y a plusieurs personnes qui nous ont rejoints sur le plateau. On va parler donc de ce festival de l'acteur. Et donc, on va parler de deux spectacles qui vont être proposés. Il s'agit donc de Foi, Amour, Espérance, d'après Eudon von Horvath. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc, j'ai le plaisir de recevoir Katia Ferreira. Bonjour. Bonjour. Et il y a un autre spectacle d'après Yuko Mishima, Madame de Sade. Et je reçois donc Camille Soulerin.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom.
C'est ça.
Ben on va commencer tout de suite avec le Foi, Amour, Espérance de Eudon von Horvath. Alors Eudon von Horvath, moi c'est un auteur que je connais bien, c'est un auteur de théâtre et c'est aussi un auteur de romans. Moi j'avais lu un ou deux romans, entre autres un qui m'avait tout à fait impressionné, qui s'appelait Jeunesse sans Dieu. Donc là, Foi, Amour, Espérance, je ne connais pas la pièce. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce texte et cet auteur ?
Alors c'est un auteur que j'ai découvert en première année lors d'un stage avec André Wims. On avait monté Casimir et Caroline.
Ah oui, je connais celui-là.
J'ai été très sensible à l'écriture et à l'univers d'Horvath. Et du coup, j'ai commencé à lire pas mal de ses œuvres et notamment Foi, Amour, Espérance, que j'ai beaucoup aimé parce que je la trouvais encore très, très d'actualité, en fait, sur ce que ça raconte. Voilà, c'est cette histoire d'une jeune fille qui est tellement dans une spirale de misère, qui a tellement plus d'argent qu'elle en vient à essayer de vendre son propre corps de son vivant pour pouvoir survivre.
Alors quand vous avez un projet comme ça, comment ça se passe donc avec Richard, vous arrivez, vous dites bon ben voilà, moi j'ai lu ça, je voudrais faire ça. Comment ça se passe? Parce que pour nous c'est assez mystérieux.
Je vais juste parler de l'origine de ça. C'est-à-dire qu'Ariel Garcia Valdez, sur la fin de l'année précédente, a réservé 4 semaines comme ça. Aussi parce qu'on avait des problèmes financiers. Comme des fois, les contraintes, ça peut aider. Donc, on en avait parlé tous les deux. J'ai dit, mais peut-être c'est l'occasion. Et je pense que ce serait bien que les élèves comédiens, les apprentis comédiens prennent en charge des projets personnels. Et donc, ils se sont retrouvés 4 semaines. Et en 4 semaines, je me souviens, moi, je leur disais, il en faut 2, pas plus. Et ils ont fait 8 projets, ce qui était une somme de travail énorme. C'est quand on voit que quand un acteur aujourd'hui, et c'est ça que peut-être on a un peu perdu par moment, et il faut faire très attention. C'est là, je suis en train de lire moi la bio de Simon Callot sur Dans la peau d'un acteur, cet acteur anglais qui justement parle vraiment de ça et qui dit que le danger d'un acteur aujourd'hui, c'est de pouvoir être juste aux ordres, d'attendre, de dire bon, il faut que je lise ça, je vais lire ça, qu'est-ce que tu veux, je te fais ça. Et peut-être qu'effectivement, la place qu'ont pris les metteurs en scène avec toute la génération du cartel, de Jouvet, etc., tous ces gens-là, peut-être que peu à peu, les acteurs sont devenus juste des gens qui sont dans l'interprétation et qui n'ont pas essayé de porter fortement leur présence dans le geste de création. Alors donc, ce qui était, et c'était magnifique de voir qu'en 4 semaines, ils ont proposé 8 projets, un travail colossal, ils travaillaient jour et nuit. Et donc, quand je suis arrivé directeur, j'ai vu ces travaux et j'ai proposé qu'on en retienne 4. Donc là, ils ont laissé libre cours à toutes leurs envies, qui sont multiples. Hein. Camille, elle a eu envie que les filles travaillent, parce que ça faisait un an et demi qu'il n'y avait pas tellement de rôle pour les femmes. Donc elle s'est dit, je vais chercher une œuvre où les filles travaillent. Katia avait eu ce coup de cœur pour Horvath. Et puis donc, moi, j'ai vu leurs travaux, qui étaient quand même pas totalement aboutis, mais il y avait un geste très intéressant. Et donc on a retenu 4-5 projets comme ça, avec un nouveau, vous verrez, Vincent Steinbach. Donc voilà l'origine de ça. Et là, avec l'aide d'un scénographe, ils ont repensé, réfléchi, avec la maturité, un an après. Et ils ont essayé d'aboutir, hein, dans un temps très très court, ces projets qui sont vraiment des créations. Voilà, voilà l'origine.
Alors il y a une anecdote avec Eugen von Horvath, c'est qu'il est mort à Paris en 1938, devant un théâtre, devant le théâtre Marigny, et il est mort parce qu'il y a une branche de marronnier, il venait d'avoir un orage, qui lui est tombée dessus, donc il est mort devant un théâtre. Voilà,
très jeune.
Alors qu'il s'apprêtait à aller voir Blanche-Neige.
Mishima maintenant, Mishima, Madame de Sade. D'abord, c'est bizarre pour un auteur japonais de prendre un argumentaire français. Hein, donc, et en plus, le Sade, moi je suis très grand sadien, je suis un grand amateur du Marquis de Sade, donc tout ça m'interpelle beaucoup. Le Marquis de Sade, on ne le voit jamais dans la pièce.
Non, on le voit jamais.
Ce sont uniquement les femmes qui parlent de Sade. Il est là tout le temps, mais il n'est jamais là.
Oui, c'est ça. En fait, toute la pièce tourne autour de 6 femmes dans un salon, et sur une période de 18 ans, on les retrouve à 3 époques différentes. Et le Marquis de Sade n'est jamais présent physiquement, mais toujours dans les discussions, il est un peu le centre de conversations de ces femmes qui parlent pour toujours exister, en fait. Et comme le disait Richard, c'était l'envie de voir ces femmes sur un plateau. Et donc le Marquis de Sade est le sujet autour duquel tournent les conversations.
C'est vrai que le Marquis de Sade a passé un certain temps en prison, et donc et sa femme lui est restée tout le temps fidèle pendant ces années de prison, et quand il est sorti, elle l'a quitté.
Voilà, c'est ça. C'est,
je ne me trompe pas. Hein.
Non, c'est ça. Et en fait, dans la pièce, les 3 époques à laquelle on se retrouve, auxquelles on se retrouve, sont à chaque fois des périodes où le Marquis de Sade est emprisonné. Donc il y a toujours cette absence, et le dernier acte se passe au moment de la libération du Marquis de Sade, et on est quelques mois après la Révolution française. Et donc c'est intéressant parce que sur les 6 femmes, il y a 3 personnes qui ont vraiment existé et 3 personnages inventés par Mishima. Mmh. Et parmi ces 3 personnages inventés, il y a Charlotte, la femme de chambre, qui fait contrepoint aux 5 autres figures aristocratiques. Et donc quand on voit que le 3e acte se passe après la Révolution française, on essaie de... Enfin voilà, en tout cas moi j'ai essayé de mettre en avant le contrepoint de cette femme du peuple.
C'est vrai que Sade, il a été en prison avant la Révolution française, il a été en prison pendant la Révolution française et il a été en prison aussi sous l'Empire, donc il était indésirable.
Il a essayé toutes les geôles possibles, toutes les styles.
Et il a fini dans un asile de fous à Charenton, si je ne me trompe pas. Et on peut très bien imaginer que pendant que la pièce se déroule, il est à la Bastille en train d'écrire les 120 journées de Sodome.
Oui, d'ailleurs, ce qu'il est en train d'écrire est important puisqu'il y a tout tourne autour de l'écriture de Justine ou les Malheurs de la Vertu. Et sans raconter la fin, mais il y a du coup le parallèle entre sa femme et l'héroïne de ce roman.
Alors pour la petite anecdote, si on me lance sur Sade, on en a pour la matinée. Pour la petite anecdote, la Justine de Sade, il l'a rencontrée, paraît-il, à Montpellier. Voilà, c'était pour l'anecdote. Merci beaucoup à vous deux. Donc, pour avoir les dates, je n'ai pas les dates en tête pour chacun des spectacles, donc il faut plutôt se regarder.
Il faut bien regarder le site de l'école qu'on a essayé.
Le 13, 14, 15 pour Femmes ou Espérance.
À 19h.
À 21h.
À 21h, ouais. Voilà.
Et le 11, 12 et 16 novembre à 21h pour Madame de Sade. Décembre.
Alors attention, parce qu'il faut, on a plusieurs salles dans l'école, et il y a des salles qui ont peu de jauge, hein, donc là c'est le cas, donc il faut réserver, il y a un numéro, hein, qui est le 04 67 60 05 40, qui est sur le site, qui est le numéro de l'école, et il est impératif de réserver, et voilà, et assez vite, parce que peut-être ça va se remplir très vite, enfin je l'espère, on le souhaite. Voilà.
On va réserver pour nous déjà Vendredi Théâtre. Eh bien, on va écouter un deuxième extrait de l'entrée des artistes avec là Jouvet qui va dans une blanchisserie pour convaincre les parents d'une apprentie comédienne de les laisser devenir apprentie comédienne.
Ingénue. Jeune première. Ingénue.
Allez Marcel, laissez passer Monsieur Lambertin.
Coquette. Sans emploi.
Monsieur Grenaison, mon mari, l'oncle de la petite.
J'aurais tout de suite reconnu Monsieur Grenaison.
Vraiment ?
Vous ressemblez furieusement à votre écriture.
Vous allez bien prendre une tasse de café avec nous ?
Certainement, asseyez-vous, monsieur. Fernand, allez, essuie la table.
Ai-je l'air d'un excentrique, d'un dément ou d'un hors-la-loi ?
Certainement pas.
Je suis officier de la Légion d'honneur.
Je l'ai vu tout de suite, mon commandant.
Je ne suis pas commandant, je professe au conservatoire et c'est à ce titre qu'on m'a décoré. Je n'en tire pas de vanité. Je vous dis ces choses de sucre. Parce qu'aux yeux de certaines personnes, merci, cet accessoire vestimentaire confère à qui il porte un certain prestige.
Certainement.
Cet attribut me donne le privilège d'être écouté respectueusement par les imbéciles. Les autres ne me prêtant quelque attention qu'à cause de mon talent, de ma carrière ou de mon passé. Allez, joue. Ouais, voilà. Votre nièce est mon élève.
Non, c'est trop d'honneur.
Laisse parler, commandant.
Je ne suis pas commandant.
Non, bien au mieux.
Les parents sont bien coupables qui ne respectent pas les cheveux blonds ou bruns de la jeunesse. Cet enfant est un sujet de premier ordre. Et vous n'avez pas le droit de lui gâcher la vie sous le prétexte assez vain que vous lui tenez lieu de mère en qualité de tante. C'est une amoureuse.
Comment ?
Je parle de son emploi.
Amoureuse, c'est pas un métier, ça.
Je ne doute pas de sa vertu. C'est une Réjeanne, si vous préférez. Oui. Je parle du genre de rôle qu'elle interprétera. Oh,
si c'est une Réjeanne, alors, certainement.
Voilà. Je vous rends votre lettre pour vous laisser la joie d'avoir le remords de la déchirer vous-même.
Je t'en vais même.
Qu'il n'en soit plus question.
Et croyez-vous qu'elle gardera de l'argent ?
Elle arrivera, et c'est à vous qu'elle le devra. Croyez-moi, vous ferez une bonne et noble action.
Qu'en penses-tu, Fernand ?
Moi, ça ne me plaît pas beaucoup, mais puisque monsieur nous assure que la petite n'en pense pas.
Évidemment. Silence, la boutique !
Voilà, enchanté de vous avoir connu. Alors, tout est arrangé ? Bravo, vous êtes de braves gens. Quand je pense qu'elle aurait vécu dans cette atmosphère, blanchisseuse, vous ne lui interdisiez pas l'accès de la boutique. On n'a jamais vu des enfants qui voulaient devenir blanchisseurs contrecarrés par leurs parents.
C'est que c'est un métier.
Laver en famille le linge sale des autres, vous appelez ça un métier? Ignoble. Mes pauvres enfants, je vous plains.
Mais enfin,
Tandis que comédien, ce n'est pas une profession, n'est-ce pas? Pas une profession, crétin. Pas une profession, idiot. Excusez-moi de vous parler ainsi, mais vous me rappelez mon imbécile de père. Quelle atmosphère. C'est à vous dégoûter de vous faire blanchir.
Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Voilà les façons. Venir insulter les commerçants à domicile.
Quand je songe que l'on joue Madame Sangène à la Comédie Française. Pardon, mon enfant.
Mais qu'est-ce qu'il raconte, cet homme?
Vous, le sergent-major, taisez-vous. Hein. Je serai comédien, quoi que vous en disiez. Je ne finirai pas mes jours entre une pile de mouchoirs et une douzaine de chemises de plastron. Voilà. Voilà ce que j'aurais dû dire à mon père quand j'avais 17 ans. Il y a un peu plus de 30 ans. Adieu.
Mais vous ne remettrez plus jamais les pieds ici, plus jamais.
J'ai aucune raison de remettre les pieds chez vous maintenant que j'ai tout arrangé.
Et voilà le deuxième extrait de l'entrée des artistes avec Louis Jouvet, donc le passage qui se passait dans la blanchisserie. Je vous rappelle que vous êtes bien toujours sur Vendredi Théâtre. Nous faisons une émission spéciale sur les 10 ans de la maison Louis Jouvet et nous parlons du festival de l'acteur qui aura lieu du 9 au 20 décembre. Et d'ailleurs, il y a plein de jeunes acteurs qui nous ont rejoints, donc je vais essayer de n'oublier personne et de ne pas écorcher des noms. Nous recevons Quentin Ménard pour Cyrano. Qui est Quentin Ménard ?
C'est moi.
C'est vous. Nous recevons Florent Dupuis et Mathias Labelle pour le Docteur Follamour.
C'est nous.
Je ne me suis pas trompé. Et Vincent Steinbach pour It's Coming.
Tout à fait, bonjour.
Bonjour. Bon, on va commencer tout de suite par le Cyrano. Donc c'est une, avec Quentin,
oui.
C'est une variation autour du Cyrano, c'est quoi ?
Oui, alors en fait, j'ai appelé cette pièce une adaptation de Cyrano de Bergerac pour la raison en fait que j'ai réduit le nombre de personnages. C'est vrai qu'à la base, la pièce d'Edmond Rostand compte environ une cinquantaine de personnages. Et en fait, on joue cette pièce à 6 acteurs. Donc non pas qu'on change de personnage régulièrement, on a un personnage chacun qui nous suit du début de la pièce jusqu'à la fin. Et du coup, je me suis permis de nombreuses coupes. Pour en venir à, selon moi, en tout cas ce que j'avais envie de défendre sur cette pièce, ce qui me semblait être l'essentiel des rapports humains entre les personnages, peut-être en mettant de côté quelquefois le rapport épique et grandiloquent qu'on peut retrouver dans la pièce originelle d'Edmond Rostand, mais en du coup recentrant la pièce sur le rapport amoureux et le triangle entre Cyrano, Christian et Roxane.
Et qui joue le rôle de Cyrano ?
C'est moi.
C'est vous ? Parce que c'est quand même un sacré rôle. Il y a plus de 1000 Alexandrins.
1600 dans ce... vers, oui.
Voilà. Donc,
Oui, non, c'est un sacré rôle, oui.
En fait, c'était un rêve de Quentin, mais un rêve qui va suivre toute sa vie et qu'il a commencé depuis longtemps. C'est-à-dire donc, un rêve de d'endosser ce personnage. Et en le voyant il y a un an... on sentait vraiment quelque chose poindre et une chose très belle et très intime que nous permettent la proximité, l'intimité du lieu. Hein. On a une jauge de 80 spectateurs et on réentend vraiment magnifiquement le texte d'Edmond Rostand. Effectivement, avec l'épure de resserrer les cadets, c'est le public, par exemple. C'est le public, les cadets. Donc voilà, les figurants, c'est le public. Et donc j'ai dit à Quentin, on en a parlé ensemble, il est accompagné avec des assistants, c'est-à-dire la charge de mettre en scène et de jouer est un peu énorme, mais c'est son projet, c'est lui qui l'a monté, c'est son envie, et effectivement en une heure combien, Quentin tu
Donc je pense que ça dure à peu près 1h20.
En 1h20, on entend vraiment quand même l'essence d'Edmond Rostand et la beauté indémodable de cette langue et de cette pièce.
Vraiment, oui, c'est vrai, c'est une adaptation, mais j'ai vraiment fait en sorte
de garder la versification.
Oui, j'ai respecté toute la poésie de cette pièce et c'est pour ça que je l'ai choisie d'ailleurs.
On va passer d'un monstre à un autre, on va passer de Rostand à Kubrick avec le Docteur Follamour. Donc, vous êtes là tous les deux, donc il y a le metteur en scène et le comédien.
C'est ça.
Donc, alors, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a décidé à adapter pour le théâtre le Docteur Follamour ?
À la base, c'est une idée de Florent de faire une réadaptation de Docteur Follamour qu'il avait déjà faite l'année dernière. Et puis je l'avais assisté, je l'avais aidé. Et cette année, on avait envie de continuer à travailler dessus, de faire une chose différente de ce qui s'était passé l'année dernière. Et du coup, on a travaillé surtout à partir d'improvisation, beaucoup.
De plateau aussi. On a repris la trame du Docteur Follamour, on a respecté l'histoire. Ça dure 50 minutes. Mais on s'est permis des libertés, donc c'est une adaptation aussi du Docteur Follamour, où je suis seul en scène, où je joue les personnages. Et on s'est permis de réécrire, de réinjecter des textes à nous, de le rendre encore vivant, parce que pour moi, il résonne beaucoup encore, ce film aujourd'hui en tout cas.
Et vous reprenez le rôle de Peter Sellers ?
Peter Sellers, voilà.
Il rend un petit hommage. Tu le rends toujours, le petit hommage ?
Je rends le petit hommage à Peter Sellers.
Sinon, tu joues combien de personnages ?
Je dois en jouer 6 ou 7. À peu près 7, ouais. À peu près, voilà. Plus des vidéos, bref, voilà.
Il y a de la vidéo aussi dans le spectacle.
Oui. D'autres personnages que je joue, voilà.
Tu peux citer les 6 personnages.
Alors les personnages, il y a le général Turgidson qui est contre les Russes et qui veut absolument que la guerre se déclenche pour éliminer les Russes. Il y a le président des États-Unis qui est totalement flippé. Il y a le général Ripper qui, lui, c'est le général paranoïaque qui a donné l'ordre aux 34 bombardiers B-52 d'aller bombarder la Russie. Il y a le Docteur Follamour, donc l'ancien nazi racheté par les Allemands, par les Américains, qui est d'ailleurs une histoire vraie. Quand il a pris ce personnage, les Américains, pour les pour des projets scientifiques. On fait appel aux anciens nazis, d'ailleurs, donc c'est d'actualité. Après, je joue un autre général, le général Fassman, qui est juste une petite intervention qui dure une minute sur un écran, voilà. Et ensuite, je joue le russe, l'ambassadeur de Russie, qui est fort ivre à ce moment-là. Et je joue ensuite le général Mandrake, celui qui veut essayer de faire résonner le général Ripper pour qu'il puisse rappeler les bombardiers et récupérer les trois codes. Pourquoi ? Parce que les avions qui sont partis, on ne peut pas les rappeler, sauf si on a récupéré les codes. Quoi. Voilà, donc ça fait à peu près 6-7 personnages. Quoi. Voilà.
Alors le dernier spectacle, donc, c'est It's Coming. Alors là, je ne sais rien du tout sur ce spectacle.
C'est normal, voilà. Je l'ai écrit. En fait, c'est un spectacle que j'ai écrit il y a quelques années, il y a 3 ans, mais que j'ai seulement terminé il y a là, 2 semaines.
Vous êtes le seul à avoir écrit votre spectacle, parce que les autres comédiens prennent des textes déjà.
Ouais, ils ont fait des adaptations, des trucs et des réécritures, etc. Mais c'est vrai que je suis le seul à faire une création d'un bout à l'autre, en effet.
Et vous êtes tout seul sur scène ou...
Pas du tout, non. Il y a 5 personnages. Moi, je ne suis pas sur scène, en fait.
D'accord.
C'est un spectacle qui raconte, qui part des codes des films de science-fiction, des films qui parlent de la fin du monde. De série B, oui, tout à fait. C'est une comédie, hein, c'est beaucoup de n'importe quoi. On s'amuse beaucoup, ça dure 50 minutes. Il y a 5 personnages qui doivent faire face à la fin du monde de la manière la plus américaine possible. Et ils le font, mais ils le font mal.
Il y a un petit peu un écho avec le Docteur Folamour.
Oui, un petit peu, oui. De loin.
Alors, je vais vous demander aux uns et aux autres les dates, parce que moi, je ne les ai pas sous le nez pour voir. Bon, le Cyrano, ça sera quand ?
Alors, ça sera au début du festival. C'est le mardi 10, le mercredi 11 et le jeudi 12 à 19h.
Le Docteur Folamour ?
C'est le 10, 17 et 18 décembre à 21h.
Et It's Coming ?
It's Coming le 16, le 17 et le 18 décembre à 19h.
Eh bien, Vendredi Théâtre, on y sera. Je ne sais pas encore quel jour. Merci à vous pour nous avoir accompagnés pour ce plateau. Eh bien, on va écouter encore un petit peu de Jouvet, toujours dans l'entrée des artistes, avec le final du film.
Tu disais qu'à force de jouer la comédie, on finit par s'imaginer que la vie est une farce, c'est vrai, mais il faut y voir. Mettre un peu d'art dans sa vie et un peu de vie dans son art. Vous n'avez pas cru à la sincérité de Cécilia, vous n'avez pas cru à l'amour de François pour Isabelle, parce que vous n'êtes pas encore de bons comédiens. Et que vous ne croyez pas à la sincérité de Rodrigue, ni à l'amour que Mélisande porte à Péléar, s'il faut y croire. Rien n'est faux, il suffit d'avoir un peu la foi et tout devient réel. Comme moi, vous vivrez plusieurs existences, passionnantes et compliquées, pathétiques et cocasses. Mais ne l'oubliez pas, c'est quand le rideau se lève que votre vie commence. Il ne tient qu'à vous qu'elle continue le rideau une fois baissé. Pour cela, il suffit, après avoir cru en vos personnages, de croire un peu en vous. L'amour de François pour Isabelle, tenez, on pourrait en faire une pièce, ou un film. Il est vrai que l'amour n'est pas photogénique.
Et voilà le dernier extrait de l'entrée des artistes, le film de Marc Allégret. Ne pas confondre Marc Allégret avec Yves Allégret. Yves Allégret, c'était son frère, son jeune frère. Voilà, un film de 1938 avec Louis Jouvet. On est toujours avec Richard Mitou et Gérard Liébert pour nous parler de cette spéciale 10 ans de la maison Louis Jouvet, l'ENSAD, de ce festival de l'acteur qui aura lieu du 9 au 20. Moi, j'avais une question à vous poser maintenant. C'est, bon, l'ENSAD, on a maintenant la maison Louis Jouvet. Mais quel avenir pour la maison Louis Jouvet ?
Ah, j'espère florissant. Quel avenir on est le ministère de la Culture va nous inspecter prochainement pour qu'on puisse rester École nationale supérieure, habilité par le ministère à délivrer le DNSPC, Diplôme national supérieur professionnel de comédien. Alors tout ça semble un peu compliqué, mais on a lancé un partenariat avec l'université Paul Valéry pour permettre justement aux comédiens, pour expliquer que c'est une vraie formation exigeante avec également un enseignement théorique de l'histoire, droit et sociologie du théâtre, avec justement Gérard Liébert fait partie des enseignants de l'université à travailler, et que cette formation, elle donne l'équivalence d'une licence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un comédien qui sort d'ici, de cette maison, s'il fait partie du petit pourcentage, parce qu'il y a un taux d'insertion énorme. On a développé, nous, un fonds d'insertion pour aider la création et les jeunes acteurs. Donc on a de temps en temps quand même, et heureusement, des gens qui décident que ce métier est finalement un peu compliqué. On a un taux d'insertion de 80-90%, c'est assez énorme.
C'est énorme.
Et donc les autres, on bénéficie d'une licence, et pourquoi pas un jour, même en étant acteur, faire un master ou à Madrid ou à Berlin. Donc voilà. Donc ça, c'est une habilitation qui doit se renouveler avec le ministère. Donc j'espère que tout va bien se passer. La demande administrative du ministère est monstrueuse. J'ose le dire, c'est-à-dire ce qu'on nous demande est quand même assez incroyable, et je pense que la formation de l'acteur est difficilement évaluable. C'est-à-dire que la seule manière, je pense, c'est de voir si les gens continuent à travailler et nourrissent le paysage de création nationale. Et c'est le cas aujourd'hui pour nous. Et je pense que c'est primordial dans une ville comme Montpellier d'avoir cette espèce de cœur battant de la création artistique qui essaie d'avoir, d'ailleurs, de mélanger... On a une volonté de pluridisciplinarité aussi, de rencontres multiples, comme on fait dans ce festival, et puis donner à la jeune création cet allant, cet élan, cette envie, cette générosité, cet esprit aussi qu'il faut faire vivre. J'espère un long... bel avenir et long avenir, et les acteurs déjà vont jouer. Enfin, mon envie, c'est de les faire jouer hors les murs. Donc, ils ont ouvert... de cette promotion-là qui va sortir, celle que vous avez entendu parler, c'est la promotion 2014, on dit, donc c'est celle qui va sortir cette année, qui a joué déjà au Printemps des comédiens, dans le Nobody, une performance filmique de Cyril Test, d'après des textes de Falk Richter, sur le monde du travail, de manière très critique. Et puis, ils ont l'envie de créer un collectif. Donc nous, on essaie de développer ça aussi, c'est-à-dire un collectif qui s'appellera La Carte Blanche, puisqu'on leur a donné carte blanche il y a un an, ils ont dit on va s'appeler La Carte Blanche, et c'est une vraie envie de travailler ensemble, puisque là, tous les projets qui sont ceux de cette promotion, il va y avoir la nouvelle promotion qui va présenter un impromptu d'après Molière et Jean-Claude Idé pour une université populaire du théâtre. C'est Gilbert Rouvière qui met en scène ça. Ce collectif va essayer, tous les acteurs là, qui ont pris en charge, les chefs de projet, on va dire, la distribution, c'est entre eux. Tous ces gens jouent et mettent en scène. Enfin, là, il y en a 4-5. C'est avoir une espèce de poumon battant de la création artistique. Parce que la France a été pendant de longues années une très belle terre d'accueil. Son exception culturelle a permis à des artistes européens, internationaux, de vivre. Hein, des gens qui, grâce à la France, comme Pippo Del Bono, Rodrigo Garcia, des gens qui sont apparus parce que la France a été une vraie terre d'accueil. Mais peut-être que par moment, on a oublié, il est assez difficile aujourd'hui de faire du théâtre, donc il faut à tout prix garder ces maisons de théâtre, ces écoles supérieures, ces théâtres de création, hein, parce que les théâtres de création aussi sont un peu devenus des lieux de diffusion, donc il faut redonner l'endroit, le lieu du travail et d'essayer de faire émerger de nouvelles générations d'acteurs, créateurs, c'est un peu notre mission et j'espère qu'on va la porter longtemps.
Je vais me tourner maintenant vers Gérard, parce que vous êtes enseignant à l'ENSAN, mais qu'est-ce que vous enseignez à ces apprentis comédiens?
Je ne sais pas, je leur raconte un peu l'histoire du théâtre, j'essaie de solliciter leur curiosité ou bien de répondre à leurs demandes. Et puis j'accompagne aussi, je suis un peu là avec eux pour partager ce que j'ai pu apprendre et voir comme chercheur, enseignant, dramaturge.
Vous êtes un peu une encyclopédie quand même pour l'histoire du théâtre.
Praticienne, une encyclopédie qui a travaillé avec Jacques Nichet, qui a été un dramaturge, qui a travaillé avec Jean-Claude Fall. Donc c'est quelqu'un qui connaît aussi la création et le plateau.
Se voit souvent dans les théâtres.
Oui, je suis attentif à ce qu'ils font. Je continue à avoir la passion de voir du théâtre. Et même là, vous venez de les entendre. On a envie d'aller voir, parce qu'on sait qu'on ne va pas voir des choses conformistes, d'une part, qu'on va voir des choses très différentes les unes des autres, des spectacles brefs, incisifs, inventifs. Et je suis épaté, moi aussi, par cette génération. On leur propose quelque chose, on lit quelque chose avec eux, et hop, ils attrapent, ils cherchent. Donc, je ne fais pas avec eux des cours conventionnels et habituels, mais j'arrive et puis nous explorons comme ça une période, une date, une problématique, et on apporte. Et après, très vite, ils s'en emparent et ils savent faire fructifier ce qu'on leur propose. Donc, c'est vraiment, vraiment une école où les gens ont envie d'apprendre, ont envie de découvrir, et prennent confiance en eux aussi, et propose des tas de choses et se confronte avec le public, ce qui est essentiel, sans trop attendre, et ont cette possibilité de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils le font. Ils ne sont pas en train de se tourner les pouces.
Et c'est une école aussi qui donne ce bagage, cette culture générale qui me semble indispensable.
Oui, puis ils ont alors le diplôme de l'université aussi, c'est-à-dire des crédits européens. Mmh. Leur licence est valable dans toute l'Europe ou dans toutes les universités du monde. Et ils peuvent aussi très bien aller d'un bord à l'autre. Certains avaient d'ailleurs déjà commencé des études universitaires plus poussées et ils peuvent faire fructifier cela. Ou à un moment donné, dans leur... dans le déroulement de leur vie, ça peut aussi être un point d'appui pour s'orienter ou pour approcher plus de certaines fonctions dans des établissements culturels. Non, ils sont armés bien et ils sont formés par des gens passionnés. Des gens qui viennent travailler avec eux sont aussi tout à fait enthousiastes. Et donc, il y a là quelque chose qui existe à plein et qui est une richesse qu'il faut continuer à entretenir et à préserver.
Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait des passerelles qui aient été faites entre l'ENSAD et l'université. Ça me semble tout à fait important.
On les développe d'ailleurs dans la programmation du festival. Vous verrez, il y a des anciens qui viennent. Donc, il y a quelqu'un qui est sorti en 97, Sébastien Lagorre. Il était dans ma promotion à moi. Donc, maintenant, on dit 97, on est 16 ans. Qui va présenter un texte d'Alan Bennett, une frite dans le sucre d'Alan Bennett qui nous fait ce cadeau-là. Il y a des lectures aussi. Donc, j'ai essayé d'ouvrir la maison, ce qui fait qu'on est, nous, petite équipe technique très, très chargée. Hein, donc, ce sera un peu comme ça. Vous viendrez voir. Il y aura peut-être un peu de retard, des fois. Vous regarderez régulièrement le site parce que peut-être que. On va se dire, tiens, c'était complet. On va peut-être ajouter ce spectacle. On va essayer d'avoir une... attention, hein, c'est pas l'organisation du Printemps des Comédiens, c'est une petite maison de théâtre, une école inventive qui essaie de créer de nombreuses passerelles, mais qui là, voilà, ça va être un lieu d'accueil, un peu comme ça, c'est une entrée libre, mais c'est pour ça qu'il faut quand même prendre la peine de réserver. Et on va essayer d'avoir ce petit moment utopique de réunion humaine, de rassemblement humain, de résistance humaine autour de l'humanité, du geste créatif du 9 au 20 décembre. Mais je voulais juste rajouter une petite chose, mais comme je suis très fatigué, j'ai oublié. Donc j'ai parlé de la carte blanche. Gérard, je te remercie parce que ton témoignage fait du bien aussi. Parce que c'est vrai que c'est une école... Ah voilà, c'est qu'avec l'université, c'était pour répondre à ta question, Florent. On a aussi créé une passerelle, on a fait des lectures en bilingue avec le... J'ai monté... des Purple Patches, des morceaux choisis de Shakespeare qui ont eu lieu dans le cadre du congrès Shakespeare avec l'IRCL, donc
au mois de juin dernier,
cette unité mixte de recherche avec le CNRS, avec le Centre des Monuments Nationaux. Voilà, on tente aussi que l'acteur ait sa place dans la cité, c'est-à-dire que comme ça, en 3-4 jours, on répète un texte et on donne une lecture à entendre. Là, par exemple, avec les masters d'anglais, hein, on va essayer de travailler une petite lecture bilingue. Alors, ce sera très fragile, mais une petite lecture bilingue sur les scènes de nuit de Shakespeare. C'est un séminaire qui est organisé par Florence Smarck. Donc, on essaie de créer comme ça des petites passerelles. Et l'objet de la lecture, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup et que moi j'ai instauré un atelier lecture. La lecture aujourd'hui, à mon avis, est un endroit magnifique pour que l'acteur puisse exister très vite, se confronter très vite à un public et surtout faire entendre des auteurs à un public. Parce que la lecture aujourd'hui devient quelque chose de fastidieux pour les gens, c'est par moments. Hein, et c'est tellement beau d'entendre des acteurs donner à entendre des textes et des auteurs qu'après on a la curiosité d'aller chercher ces livres-là. D'ailleurs, les bibliothèques fonctionnent très bien à la sortie des théâtres quand on découvre. C'est peut-être ça qui donne aussi envie de lire. Et la lecture permet d'avoir très rapidement, avec peu de moyens, la possibilité de jouer à divers endroits dans Montpellier, dans la région. Et donc, je vais essayer.
Lectures, je trouve ça tout à fait passionnant. D'ailleurs, j'ai assisté à toutes les lectures qu'avait donné Dag Jeanneret pendant le Printemps des Comédiens. On découvre des auteurs et c'est toujours un vrai, vrai plaisir. J'ai vu dans le programme, on n'en a pas parlé aussi, qu'il allait avoir un spectacle autour de José Saramago. José Saramago, le prix Nobel portugais, donc qui est cher à mon cœur. Je crois que c'est Marie Vire qui va.
C'est ça, c'est Marie Vire qui est sortie du collectif Moebius, voilà, dans l'esprit un peu.
Qu'on a reçu de nombreuses fois.
Voilà, et qui donc Marie a envie de nous faire entendre un texte qui s'appelle Les intermittences de la mort, je crois. Voilà. Donc que je n'ai pas lu, que je ne connais pas, mais donc voilà, elle a sa carte blanche et elle viendra donner une petite lecture. Je crois que c'est le 12, regardez sur le site, tout ça, vous êtes les bienvenus. Voilà. Donc c'est des découvertes, moi je ne connais pas le texte. Hein. Mais la maison est ouverte à tous ces anciens qui ont envie de donner à entendre des choses.
Alors on va rappeler donc les 10 ans de la maison Jouy-Zouvet. Donc c'est du 9 au 20 décembre. Alors il faut absolument regarder sur le site. Le site c'est
www.ensad-montpellier.fr. Voilà.
Voilà, c'est ça. Bon, et le numéro de téléphone pour les réservations, c'est le 04, je n'arrive
67
pas. 60 05 40.
Voilà.
Voilà, merci beaucoup à vous deux de nous avoir accompagnés pour ce vendredi théâtre spécial 10 ans de la maison Louis Jouvet. Bien sûr, Vendredi Théâtre est ouvert au Conservatoire. Vous venez quand vous voulez, vous nous donnez votre actualité. Il y aura toujours une place pour vous à Vendredi Théâtre.
Merci beaucoup. Merci.
Je vais rappeler que dimanche à 20h30, il y aura la retransmission de l'événement qui a eu lieu à Jean-Villard. Donc tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le théâtre sans jamais avoir osé le demander. Voilà, ça sera à 20h30 et ça sera podcasté le lendemain. Et il y aura une rediff le vendredi, je crois.
Je voulais juste rajouter une toute petite chose qu'on a oubliée, c'est qu'il y a des grandes figures du théâtre qui sont là aussi pour dans l'esprit de transmission qu'à l'école. Il y a des grandes figures et des rencontres avec ces grandes personnes. Il y a Pierre Debouche qui fait un spectacle magnifique qui s'appelle La Danse Immobile. Ça, c'est lundi, le jour d'ouverture. Et le lendemain à 17h, regardez bien ces rencontres parce qu'on va pouvoir échanger avec des grands acteurs que sont Evelyne Didi, André Wims,
Jean-Louis Ourdin,
tout ça animé par Gérard Liébert ici présent. Et on va également rencontrer, faire une table ronde autour de Louis Jouvet le dimanche 15 décembre à 17h, oui, avec Béatrice Picon-Vallin du CNRS, chercheuse, et Eva Mascaro qui vient d'éditer.
Oui, qui est une jeune chercheuse qui explore la gigantesque bibliothèque de Louis Jouvet, Bibliothèque nationale, et qui en sort des trésors de textes, de notes, de remarques qu'il a fait tout au long de son existence.
Donc, venez nombreux à ces rencontres de 17h parce que je pense que ça va être des beaux moments d'échange et de réflexion.
Merci à vous, je vois que l'heure tourne. Eh bien, on va se séparer avec un monstre sacré quand même, qui est cher à notre cœur aussi, Léo Ferré, avec L'Idole, où il nous parle justement de l'artiste.
Dans cette loge d'artistes où s'arrête la gloire, le temps de se refaire une petite beauté. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai passé mes joues au fil du rasoir. Quand on vend sa gueule sous des projecteurs, on peut pas se permettre d'avoir les cheveux noirs et une barbe toute blanche, même pour trois quarts d'heure. J'ai mis mes souliers tantôt bodillon, tantôt mocassin, ça dépend des fois. Et quand t'as marché entre deux chansons, j'irai bien pieds nus seulement, ça se fait pas. Regarde-moi bien, je suis une idole. Si j'ai fait mes yeux, c'est pour agrandir les deux petits quinquets que maman m'a donné. Je les voudrais bien verts, d'ailleurs je le fais dire, mais ils sont châtains en réalité. J'ai mis mon costume sorti du pressing, ce vestiaire anglais où on lave même le spleen. Un chanteur qui chante la révolution, sa planque, sa cravate, sa mèle, col d'anton. Regarde-moi bien, je suis une idole. J'ai bronzé ma gueule d'un vieux fond de soleil qu'on me refile en tube chez mon parfumeur. Et quand je fous mes côtes sous l'arc des merveilles, on voit des canaux qu'on prend pour des pleurs. Quand tout est fini, le rideau baissé, et que j'entends mourir la rumeur complice, et qu'il n'y a plus rien qu'un silence armé par tant de passants, sous tant de coulisses. Regarde-moi bien, je suis une idole. Et je retrouve mon corps, celui que je rencontre les matins civils quand je me prends pour moi, celui que l'on voit, celui que l'on montre à je ne sais plus qui, pour je ne sais plus quoi. Et je m'en vais souper, traqué dans un coin, avec mes copains, sur mon addition, en rasant les tables, en me cachant des mains, en disant tout bas la fin de ma chanson. Regardez-moi bien, je suis qu'un art.